Comme chaque mercredi à 21h, voici votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, présentée par Yannick Petit. Ambiance roman noir dans le 9e arrondissement de Paris, un Paris pluvieux où d'étranges pantins peuplent les bars de nuit. Tels sont, parmi d'autres, quelques ingrédients du premier roman de notre invité. Bonsoir Joseph Danvers.
Bonsoir.
Et merci de répondre à ces questions pour les auditrices et auditeurs de Radion. Alors la quatrième de couverture de votre premier roman, qui a pour titre donc « La nuit ne viendra jamais » aux éditions Latengo, est parue en mars 2010 et nous apporte bien sûr un certain nombre d'informations sur votre parcours personnel et professionnel, un beau parcours qui vous voit réussir tout ce que vous entreprenez. Alors Joseph Danvers, Joseph c'est, si je me suis bien renseigné, le prénom de votre grand-père, et Danvers parce que, arrivé à Paris, en ayant quitté Nevers où vous êtes né, vous habitiez près de la station de métro Danvers, c'est bien cela?
Peu de choses près, oui. En fait, là, on parle toujours du prénom de mon grand-père, mais c'est faux en fait. Je ne sais pas d'où est venu ça, mais tout le monde m'en parle. Non, enfin, c'est pas très loin, c'est le prénom de mon arrière-grand-père. Mais j'ai choisi ce prénom pour d'autres raisons qui sont que je garde secrètes. Mais c'est vrai que c'était le prénom de mon arrière-grand-père qui était dans les tranchées à l'époque, qui a fait 14-18, et qui est mort peu de temps avant mon arrivée sur Terre, et à qui, a priori, je ressemble beaucoup. Donc ça, il y avait du sens, effectivement. Et pour Anvers, oui, voilà, j'habitais à la station Anvers à Paris, et je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Vous voyez ce que je réussis, mais il y a énormément de choses que je rate. Il faut le savoir.
Alors, vous avez été étudiant en art appliqué, vous avez été boxeur, attention, chef opérateur de cinéma, puisque vous avez fait cette prestigieuse FEMIS, qui est une école nationale supérieure du son et de l'image,
voilà.
Pour résumer, je crois que ça on y rentre sur dossier et avec concours d'entrée.
Concours d'entrée. Concours de 6 mois, oui.
Concours plus sévère. Et bien sûr, vous êtes musicien et chanteur, 2 albums. Unanimement salué par la critique. Je rappellerai donc en 2006 Les choses d'en face et puis en 2008 Les jours sauvages. Alors, je crois qu'il faut quand même aussi préciser que Joseph Danvers a écrit des textes pour Dick Rivers et puis le défunt Alain Bashung. Un petit mot sur peut-être d'abord sur Alain Bashung.
Oui, c'était une rencontre assez incroyable parce que c'était un de mes maîtres à penser. Et voilà, quand je me suis mis à essayer d'écrire des chansons, je me suis directement dit que j'allais écrire en français, que j'avais envie d'utiliser cette langue. Et puis un des maîtres, même s'il écrivait rarement ses textes, il co-signait, c'était Alain Bashung pour cette poésie, pour ce côté... très chantant et très anglo-saxon de la langue française. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, j'ai eu la chance. Il y a beaucoup de gens qui ont, comme on le dit, travaillé avec Bashung, mais peu ont réussi à avoir le fruit de leur travail sur un album gravé. Et moi, j'ai eu cette chance. Donc, c'est vrai que c'était un honneur incroyable. Et puis, on a eu une relation. Je reste le plus jeune de ces auteurs par rapport à son âge, en fait. Donc, j'étais vraiment je suis le petit dernier dans l'histoire Bashung. Et malheureusement, oui, il nous a quittés...
En mars 2009.
Voilà. Comme tous les gens qu'on apprécie ou qu'on aime, il nous a quittés trop tôt. Je crois qu'il avait encore plein de choses à faire. Il parlait de faire un prochain album très tôt. Il avait rappelé Jean Faux, que son parolier historique. Il m'avait demandé certains textes. Et voilà. Mais c'est quelque chose qui me porte, parce que Bashung était... pour toute une génération dont je fais partie, comme un phare, un repère à l'horizon et une espèce de d'étalon sur ce qu'on faisait. Et le jour de sa disparition, j'ai ressenti comme l'effet d'un phare qui s'éteignait, et de se dire maintenant c'est à toi de voguer dans la nuit, et il va falloir se repérer aux instruments, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une grosse perte pour la musique. Et voilà, et en même temps, je me sens maintenant d'être devenu adulte.
Alors, le phare s'est éteint la nuit, et puis la transition est toute tracée pour arriver à votre roman, La nuit ne viendra jamais, aux éditions Latengo. Alors, je situe, je rappelle et je pose un peu le décor. Je ne vais bien sûr pas trop en dire, parce que je vais laisser aux auditrices et auditeurs le soin de se procurer votre roman, roman noir, roman policier.
Roman noir, ouais, moi j'aime bien ce terme.
Alors, le héros est le leader d'un groupe de rock qui s'appelle Ian, ou Ian, je ne sais pas comment on le prononce en anglais.
Moi, je dis Ian.
On dit, va dire Ian, pour faire très simple.
Voilà.
Et cet homme charismatique, leader d'un groupe de rock très en vogue, va être protégé par la police parce qu'au cours de deux de ses concerts, des jeunes gens sont poignardés pendant les concerts de cette star du rock. Hein. Il va même sur le plateau de Nagui. Enfin, c'est une vraie star du rock reconnue, médiatisée, dont le titre le plus connu est Downer. Et cette star du rock... c'est à la fois bien sûr un héros, mais c'est aussi un anti-héros, puisque il est quand même dans la déchéance, il est dans l'alcool, dans la drogue. Vous parlez souvent de sa bouche Jack Danielisée, donc il aime le whisky. Et vous écrivez, enfin, c'est le narrateur, qu'on avale, qu'on pique, qu'on inspire ou qu'on inhale, tout est bon à prendre. Alors voilà, un éloge baroque des excès du monde du rock et du spectacle. Alors j'allais dire... est-ce que c'est cela, le monde du spectacle, Joseph Danvers, ou est-ce que vous avez délibérément choisi de présenter un héros qui pourrait quitter le monde très facilement, en tout cas qui est suicidaire?
C'était l'idée de base était d'avoir un héros totalement fictif, chanteur d'un groupe totalement fictif, avec un parcours totalement fictif, mais qui prendrait place dans un monde totalement réel. Tout ce qui est autour de lui, les groupes, les lieux, les événements, les personnes, sont des gens qui existent. Oui, vous parlez de Taratata, les salles de concert existent, les festivals, enfin tout. Il rencontre Nirvana, il rencontre d'autres groupes, donc tout est réel. Et je voulais qu'il y ait cette entité au milieu qui soit en fait une synthèse de ce que je suis, de ce que je fantasme, et qui soit pour moi le cliché du chanteur de rock. Et j'avais envie, avec ce premier roman, qui est une commande, c'est important à préciser, on m'a sollicité, l'éditeur m'a sollicité après avoir écouté mes deux premiers albums, et il voulait que... En fait, ça fait partie d'une collection, ce roman. Il y aura 20 romans différents, chacun prenant place dans un arrondissement différent de Paris. Donc moi, c'est le 9e arrondissement. Et on a tous une héroïne récurrente qui s'appelle Mona, qui est journaliste.
Mona Cabriole.
Et moi, j'ai voulu faire passer Mona un peu au second plan. Et comme je suis le seul pour l'instant à ne pas être auteur de polar, et je pense que je vais être le seul d'ailleurs à l'arrivée, parce que beaucoup de mes collègues se sont un peu débinés, les lâches, devant l'exercice, j'avais envie de... N'étant moi-même pas un fervent lecteur de polar... J'avais envie de me frotter au cliché, de me dire, qu'est-ce que le polar? Qu'est-ce que le rock'n'roll? C'est ce que je connais plus le rock'n'roll que le polar et cette vie-là. Et comment faire pour essayer d'être original? Et je me suis dit, en 2010, ça va être très compliqué d'être très original en faisant un polar cadré d'à peu près 150 pages. Ça, c'était dans le cahier des charges. Et je me suis dit, l'originalité viendra du fait que c'est moi qui raconte l'histoire et personne d'autre. Donc si je raconte ma vision des choses sur une histoire, c'est dur d'en parler parce que je peux pas révéler grand chose, ma vision des choses du monde du rock et du polar, qui ne sera pas forcément très original au niveau du fond, mais la forme et moi le raconter à travers mon prisme fera de toute manière un livre qui sera original parce que c'est moi qui l'aurai écrit. Moi, je suis parti de cette démarche là et donc le premier cliché du chanteur de rock, c'est le garçon qui se drogue, qui boit, qui se consume, qui vit vite et qui meurt jeune. Voilà, la phrase anglaise qui dit, come and die young. Et vient
le credo romantique.
Voilà. Et très souvent, au moment de l'écriture, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas trop dans le cliché? Et puis, tout simplement, ma douce et tendre qui accompagnait chacun de mes pas m'a dit, cette phrase que j'ai bien aimée, les clichés ne naissent pas de rien. Et le cliché, finalement, je me suis rendu compte, en ayant un peu bourlingué aussi dans le milieu du rock, que très souvent, ce qui se passe vraiment dans ce qu'on appelle le backstage, dans l'arrière-salle, dans les loges, dépasse tout ce qu'on peut lire. Et je me suis dit, moi, je vais essayer de raconter d'une manière un peu clinique, sans prendre parti, ce qui se passe vraiment de l'autre côté du rideau. Alors, beaucoup de gens du milieu m'ont dit, t'es pas tendre, parce que quand même, tu révèles des choses, de ce qui peut se passer, du fait que, bah voilà, on réserve la partie, on réserve le glamour à ce qui se passe sur scène, et tout ce qui se passe derrière n'est vraiment pas très glamour, à moins de s'appeler Mick Jagger et d'être dans les Rolling Stones à la grande époque. Et j'ai simplement dit oui, mais ce que je raconte est vrai, et je te mets au défi d'essayer de trouver une quelconque non-vérité sur ce que je raconte. Tout est vrai, et tout ce que je raconte, quasiment, je l'ai vu. Après, c'est une synthèse de tout ce que j'ai vu en un seul homme, mais j'avais envie, voilà, de partir de ce principe-là.
Tu vois bien que le bas blesse, je n'ai même pas froid sans toi. Quelle étrange politesse, je n'ai plus besoin de toi. Je vois bien ton corps en reste et ton désir aux abois. Quelle injuste sagesse, je peux me passer de toi. Tu voudrais que je promette, jurer, cracher, je m'en vais. Dieu seul sait pourquoi je reste, je suis l'homme des mauvais choix. Dieu seul sait pourquoi je reste. Dieu seul sait pourquoi je reste. Tu vois bien que le bas blesse, je n'ai plus le cœur à toi. Quelle cruelle paresse, tu as tenu bon, pas moi. Je voudrais que tu me jettes, mais non, tu ne bouges pas. Je vois tes yeux qui me guettent, serait-ce la dernière fois. Tu voudrais que je promette, jurer, cracher, je m'en vais. Dieu seul sait pourquoi je reste, je suis l'homme des mauvais choix. Dieu seul sait pourquoi je reste. Dieu seul sait pourquoi je reste. Dieu seul sait pourquoi je reste. Dieu seul sait pourquoi je reste.
Toujours dans Wagon Livre avec Joseph Danvers pour son roman La nuit ne viendra jamais aux éditions Latengo. Dans ce roman, qui effectivement met en valeur le 9e arrondissement de Paris, il y a même une carte, un plan de cet arrondissement à la fin du roman pour identifier les lieux. Comme vous dites, il y a bien cet enchevêtrement du réel et du personnage fictif et de ses excès et de ses débauches. Il pleut beaucoup, c'est un peu comme dans les chansons de Prévert, il pleut beaucoup dans votre Paris. Vous avez par exemple une formule que j'ai trouvée magnifique, vous parlez de la pluie comme d'un feu d'artifice liquide. Et c'est un Paris monochrome, by night. Effectivement, le titre « La nuit ne viendra jamais » qui prend son sens quand on va jusqu'au bout du roman, avec ses barres de nuit, des ambiances que vous restituez, je trouve, et qui nous font plaisir en tant que lecteur, de voir Mona Cabriole boire un cognac avec le commissaire de police. Enfin, il y a ces habitués, ce regard sur ces barres de nuit qui sont des lieux où traînent quelques épaves, où l'on vient se réfugier. Des pantins noctambules, vous aimez bien. Vous évoquez souvent la mer et les vagues. Vous êtes très attaché à la métaphore, au vocabulaire maritime.
Mmh. Oui, c'est un...
Le taxi, pardonnez-moi, il y a un moment, ouais. Il parle du taxi qui est une sorte de lame qui fend la mer. Vous aimez beaucoup, c'est votre côté aventurier.
Ouais, c'est mon côté marin que je ne suis absolument pas. J'aurais rêvé d'être un marin et d'avoir ce côté aventurier, de pouvoir partir, de pouvoir parcourir les mers. Sans attache, je suis tout l'inverse en fait. Mais c'est un monde qui me fait fantasmer et voilà. Et autant, comme vous le disiez précédemment, j'ai déjà vécu beaucoup de vie à mon jeune âge et celle-là, je la vivrai jamais, je pense. Donc, je la fantasme, je l'écris, ça me fait du bien.
Alors, il pleut aussi des sons, il pleut des décibels, évidemment, avec l'orchestre de Yann, votre héros. Et puis, il y a cette paronomase, la nuit, l'ennui. Alors, l'ennui, c'est Yann, il s'ennuie, il est mal dans sa peau, il s'autodétruit, il cherche à oublier ce qu'il est peut-être, ou en tout cas, ce qu'il fut, là aussi, je ne veux pas trop en dire. La nuit, c'est pas l'ennui pour vous, Josette Anvers.
Non, bien au contraire, la nuit, c'est la vie. Et en fait, voilà, quand vous parliez aussi des bars tout à l'heure, c'est très important pour moi, parce que quand je suis arrivé à Paris, moi, petit provincial, j'ai débarqué dans ce quartier de Pigalle, donc qui est un mélange de fantasmes absolus sur ce qu'on va y trouver, la violence, la prostitution, les bars de nuit.
Et puis ça, vulgarité.
Voilà, c'est un monde qui fait peur, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un monde très attachant. C'est-à-dire que il y a une particularité dans ce quartier que j'aime, c'est qu'il y fait tout le temps jour. En journée, c'est rempli de touristes. Et puis dès que les touristes quittent les lieux aux alentours de 10-11 heures du soir, ce sont les néons qui s'allument. Et ce sont certains Parisiens qui viennent chercher du réconfort voilà, dans ces lieux. Et j'aime cette idée de... on parle souvent des lieux de perdition, et moi je trouve que c'est tout le contraire. On ne vient pas s'y perdre, on vient s'y retrouver dans ces lieux. Et c'est de l'éphémère. C'est-à-dire que ces bars, comme l'alcool et comme tous les excès, permettent d'aller mieux un instant. Mais finalement, la vie, c'est une succession d'instants. Et dans un monde où on essaye perpétuellement de nous empêcher de faire des choses, je pense qu'on irait beaucoup mieux si, au contraire, on autorisait plus de choses. Notamment si les gens ont envie d'aller boire et de... quelconque refuge, je fais pas voilà, l'apologie de l'alcoolisme ou de quoi que ce soit, ou des drogues, mais... qu'on foute la paix aux gens. Et dans ces lieux, moi, j'ai rencontré des gens qui, l'espace de 3-4 heures, vidaient une bouteille de whisky, refaisaient le monde et étaient heureux. Et ces instants-là, on ne pouvait pas leur enlever. Et pour moi, c'était important. Et quand on arrive, au fond, il y a un chanteur qui disait, qui s'appelait Mano Solo, qui parlait très bien de ces gens-là et des bars de nuit de Pigalle, qui disait nous, c'est là qu'on habite, c'est là qu'est notre maison. On habite au fond, mais il y a toujours plus profond que le fond. Et cette idée de... quand on arrive au fond, on rebondit. Il y a un moment, je parle de cette image dans le livre. C'est une belle image, mais c'est faux. On peut toujours s'enfoncer plus. Et ce que j'aime, c'est qu'à Pigalle, voilà, il y a ces mains tendues, l'espace d'un instant. Et les barmans sont là pour donner un peu de chaleur à des gens qui ont un peu froid dans leur vie. Et j'avais envie de rendre hommage un peu à tout ça. Et c'est pour ça que le roman... se passe maintenant, c'est dans fin 2010, sur trois époques, mais la première c'est fin 2010, et j'imaginais que voilà que maintenant et dans quelques années, parce qu'il se déroule aussi en 2024, qu'on n'aurait plus le droit de rien faire, et que même les bars de nuit seraient fermés, et que même ce petit réconfort on nous l'aurait supprimé. Donc voilà, je pars de ce postulat aussi de dire j'avais envie que mes personnages évoluent dans ce monde voilà humide, noir, et finalement le havre de paix, ce sont ces bars où il fait chaud et où finalement on trouve de la vie.
Si lentement mes mains te pensent, mes yeux te parlent, nos corps s'installent. Si patiemment je te dévoile mes gestes lents et détestables. Crie nos erreurs, nos réconforts. Et comme tu plies, je pleure encore.
ambiance des bars de nuit et puis ambiance des concerts rock que vous restituez, donc avec ces jeunes gens qui pogotent. Et d'ailleurs, leur attitude, vous la qualifiez de folie païenne. Il y a tout un lexique que j'ai relevé. Le rock, selon le narrateur, est proche de l'univers du diable. Mm-hmm. Et à plusieurs reprises, vous présentez Yann. Enfin, c'est un moment, Mona cadre Yann sur scène pendant un concert et il apparaît donc sous la lumière blanche et là vous parlez du corps christique du rocker et un peu plus loin il y a cette comparaison de Yann qui est présenté, je cite, tel le Christ sur son chemin de croix. Mmh. Alors Yann, effectivement, je ne sais pas si vous le rapprochez de la figure christique dans la mesure où il ne se sacrifie pas vraiment à la fin du roman, enfin, on ne peut pas dire ça, mais c'est surprenant cette image.
Je dis même à un moment donné, ce soir, Jésus-Christ est un rocker.
Oui.
Voilà.
Mais le rock n'est pas salvateur.
Non. Mais pour moi, il y avait, voilà, c'était juste ce. Le rapport avec. Entre Yann et le Christ, il était plus du domaine de la destinée, en fait. Et. Le rock'n'roll pour moi est profondément païen et le rock'n'roll quand il est arrivé c'était la musique du diable. Donc voilà, j'avais envie de tourner autour de ces thèmes. Maintenant je suis pas un grand spécialiste de religion ni tout ça, donc je me suis pas du tout aventuré. Encore une fois, ce n'est que mon regard, mais j'avais envie, voilà, de qu'on puisse se dire que le rock'n'roll peut être quelque chose de sérieux et que ça peut toucher au mystique par moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des révélations en écoutant de la musique, en écoutant. Alors, moi, je parle du rock, mais on peut. C'est en écoutant de la musique classique également, du jazz, peu importe. Mais que la musique, je pense aussi dans une époque où on essaie de nous faire de plus en plus croire que la culture c'est secondaire et que c'est facultatif et qu'on n'en a pas forcément besoin. Je pense que c'est une hérésie et que c'est une folie et que de supprimer. Là, voilà, c'est un discours bien réel, mais. De supprimer les aides à la culture, de supprimer, enfin tout ce qui est en train de se faire au niveau de la culture en France, c'est une catastrophe. Et moi, je vois bon nombre de mes collègues, de mes contemporains, qui sont obligés d'arrêter de chanter, d'écrire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir pratiquer leur art
et d'en vivre.
Ben voilà. Donc au bout d'un moment, mais ça va aussi. Voilà, si on peut parler du piratage, on peut parler de plein de choses, mais rien n'est fait pour que la culture soit mise en avant. Et je trouve que dans un monde, je le dis souvent quand quand je rencontre les gens, quand on me dit justement, ben voilà, vous avez écrit un livre, je dis, mais tout le monde peut écrire un livre. Après, est-ce qu'il est bien, c'est autre chose. Mais si vous, il ne faut rien s'empêcher. La vie est courte. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et encore une fois, on revient toujours à cet interdit qu'on nous impose, mais. Pour moi, la culture, c'est primordial. Et je pense que le monde irait mieux si les grands de ce monde se posaient un peu la question et se disaient, mais est-ce qu'un peuple... Alors, je sais qu'un peuple éduqué, c'est un peuple qui n'écoute plus. Donc, on a intérêt à abrutir le peuple, je le sais. C'est une technique vieille comme le monde. Mais, voilà, moi, sur mon maigre chemin, qui n'est pas de croix, j'essaie à chaque fois de dire aux gens... écrivez, faites des choses. Si vous avez envie de vous exprimer, c'est pas parce qu'on vous a dit à longueur de vie que avoir un vrai métier, c'est d'être dans un bureau ou quoi que ce soit. Non, écrire, ça peut être un vrai métier. Faire de la musique, ça peut être un vrai métier. Tout peut être un vrai métier. Et autant vivre sa passion, autant vivre de ce qu'on aime. Et voilà. Encore une fois, je vais citer Mano Solo, alors que c'est pas c'est quelqu'un que je n'écoute plus trop, mais lui disait ce qui est important, c'est pas l'issue, mais c'est le combat. Et je trouve que c'est une très belle phrase. La vie est un combat, et que au moment où on se retournera sur ce qu'on a fait, moi je suis déjà fier de léguer à ma fille un roman, deux albums, bientôt trois, quelques courts-métrages, des traces de ce qu'était son père à un moment donné. Et ça, c'est une fierté.
Ce sont les petits cailloux que vous semez.
Voilà, et je me dis, bah, peut-être quand je serai plus là, bah, un jour, quelqu'un trouvera ce livre, le feuilletera.
Mais vous pensez déjà à votre postérité, Joseph Dambert?
Ah, moi, je pense tout le temps à la mort, oui. Je pense toujours.
Vous êtes un peu, c'est un des points communs avec Yann.
Oui.
La nuit ne viendra jamais. Mais la nuit ne viendra jamais.
Voilà, moi, j'ai beaucoup de points communs avec Yann et avec Mona. On me pose souvent la question. C'est évident, quand on écrit un roman, on ne peut pas être dans la romance totale. Forcément, à un moment donné, ne serait-ce que le point de vue que je donne, c'est le mien. Donc il y a de moi dans ces personnages. Yann, c'est mon côté noir, Mona, c'est mon côté blanc. et moi je suis au milieu, je suis gris. Mais oui, le côté inéluctable du temps qui passe et de se dire qu'un jour il sera trop tard pour certaines choses. Il est déjà trop tard pour moi pour certaines choses. Donc si je me mets à penser à ça, c'est le vertige. Donc j'évite d'y penser. Mais oui, j'aime l'idée de semer des cailloux et de pouvoir dire je l'ai fait. Et chaque jour de ma vie, j'essaie de, pas chaque jour, mais là en ce moment, par exemple, je me lance d'autres défis artistiques. Donc à chaque fois, c'est compliqué, faut se remettre en question. Et je suis donc l'éternel débutant, mais j'aime cette position et de me dire même si je n'écris qu'un roman, j'aurais écrit un roman.
Les gens d'ici ne sont pas les miens, ils s'en vont seuls au lendemain, en oubliant leur vie d'antan, comme elle se ternit doucement. Les gens d'ici se croient vivants, comme ils en oublient le présent, ils clament leurs envies sans y croire, ils baissent les yeux pour ne plus voir. Les amis de passage ne restent jamais bien longtemps. Les amis de passage se fanent comme les roses dans le vent. Et sur la route, ils seront ceux qui traînent leur vie comme un aveu. Ils s'habitueront aux remords, se résigneront à leur sort. Les amis de passage ne restent jamais bien longtemps. Les amis de passage se fanent comme les roses dans le vent. Les gens d'ici ne veulent plus rien, les gens d'ici ne sont pas les miens. Les amis de passage ne restent jamais bien longtemps. Les amis de passage se fanent comme les roses dans le vent. Les amis de passage ne reste jamais bien longtemps. Les amis de passage se fanent comme les roses dans le vent.
Un titre de Joseph Danvers à l'instant sur Radion, c'était Les Roses. Extrait de l'album Les Jours Sauvages de Joseph Danvers. Vous êtes toujours dans l'émission littéraire de Radion, Wagon Livre, tous les mercredis à 21h. Entretien ce soir avec le chanteur et musicien Joseph Danvers à l'occasion de la publication, il y a quelques mois déjà, de son premier roman, La Nuit ne viendra jamais, aux éditions Latengo.
Merci. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Je le dis en toute sincérité. Et pourtant, je lis très très peu de romans noirs ou de polars. C'est pas tellement dans ma culture littéraire. Et Dieu sait si j'ai beaucoup lu, je crois, pour le dire, dans ma vie. Mais là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est pour cette raison que je tenais absolument à vous rencontrer.
C'est chose faite.
Alors, il est aussi beaucoup question dans votre roman. On sent une écriture parfois très très nerveuse. Le mot est posé. Une écriture cinématographique, un petit peu Thomas. Un scénario, on sent que vous posez des décors, des gestes. Bon, forcément, la fémis est un peu derrière.
Oui, moi, j'ai donc en tout et pour tout 9 années d'études d'image derrière moi. Donc, forcément, je réfléchis en termes d'image, même si je suis chanteur. Mais les textes de mes chansons, on me dit souvent qu'ils sont très imagés. Moi, je ne me rends pas compte de ça. C'est ma manière d'écrire. Mais c'est vrai que chaque idée que j'ai, que ce soit pour des photos, pour mes albums, pour mon roman, tout part d'une image. Mon roman, j'avais ce quartier, j'avais une rue précise, qui est à côté du square d'Anvers d'ailleurs, à Paris, où il faisait nuit, il y avait un réverbère allumé, la pluie, et personne. Et je me suis dit, ben voilà, mon roman commence là.
Il y a aussi beaucoup de références littéraires, des clins d'œil. Mmh,
oui.
Bah
oui,
enfin, j'avais forcément.
C'est un premier roman, donc on y met souvent les premières œuvres, sans être pompeux. C'est un peu des fourre-tout. On essaye de dire, voilà, j'aime ci, j'aime ça. Donc là, oui, au niveau musique, au niveau référence littéraire, il y a beaucoup de.
Par exemple, Joseph, dans le chapitre 3, il y a toute une série anaphorique de Il se souvient qui m'a fait penser à Pérec.
Je me souviens
de Pérec. Alors, il y a des échos à Oscar Wilde, je n'en dis pas trop, en tout cas, au portrait de Dorian Gray. Ça va, je vais pas trop révéler.
Non, voilà.
C'est pas mal, c'est des intertextes comme ça. Bon, le mythe de Faust un petit peu, et puis la fin m'a fait penser au Dormeur du Val de Rimbaud.
Bien sûr. Vu.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ma culture littéraire, je connaissais les crises de Delirium Tremens, de Coupeau dans l'Assommoir, et sous votre plume, Joseph d'Anvers, on découvre finalement la description d'une overdose, celle de Yann, qui va d'ailleurs, grâce à Mona, aller trouver réconfort et convalescence dans le massif du Morvan.
Voilà.
Comme par hasard.
Oui, oui. Bah oui, voilà, c'était. Encore une fois, j'avais envie de projeter des images et puis d'aller au bout de ce que je raconte. C'est-à-dire que. Donc mon premier métier, c'était le cinéma. Maintenant, c'est la musique. Et puis, bah voilà, il y a ce premier pas dans la littérature. Et puis, je me suis rendu compte que. En fait, j'évoluais dans des milieux qui étaient de moins en moins dépendants de l'argent. Il en faut beaucoup pour monter un film, il en faut pas mal pour faire un disque, et il en faut relativement peu pour écrire un livre.
Et alors, quasiment pas du tout pour faire une émission de radio.
Bon, ben voilà, donc, ma prochaine étape, ce sera ça. Mais c'est vrai que, et paradoxalement, ou je sais pas si c'est paradoxal, mais moins il y a de moyens, et plus il y a de liberté. C'est-à-dire que je me suis dit, dans ce livre... voilà, j'avais la maison d'édition donne une petite avance, mais qui est vraiment symbolique. Donc voilà, ils ont en gros pas tellement de doléances. Ils n'en ont pas eu, ils étaient très contents du roman et qui n'ont quasiment eu aucune retouche de fait. Enfin, moi j'en ai souhaité, mais il n'y a pas eu une remarque négative de leur part, on va dire. Mais je me suis dit, tu vas y mettre vraiment tout ce que tu as envie d'y mettre. Et en allant jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans mes chansons, on me dit souvent que je suis mélancolique ou que j'exprime une face sombre de ma personne. Et c'est dit comme un reproche. Et je n'ai jamais compris ce reproche. On dit rarement aux gens, votre musique, elle est trop gaie. Mais par contre, on peut leur dire, votre musique, elle est trop mélancolique. Voilà. Et dans mon roman, je me suis dit, je vais vraiment aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire et développer cette chose. Et c'est vrai que, par exemple, la description de l'overdose, qui dure plusieurs pages, j'ai jamais fait d'overdose de ma vie, mais j'ai eu envie de m'imaginer, et voilà, je connais des gens qui en ont fait, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté pour ce roman, et je me suis dit, encore une fois, c'est comme l'histoire des clichés tout à l'heure, voilà ce que je pense être une overdose, et maintenant moi je vais la décrire, voilà ce que, et je parle de ce puits sans fond dans lequel on s'enfonce, et voilà, et j'ai mis je suis désolé, j'ai pas beaucoup de suivi dans mes idées, mais je suis quelqu'un qui cauchemarde énormément. Je fais rarement des rêves, mais je fais énormément de cauchemars, et je fais énormément de cauchemars affreux. Bon, voilà. Donc je rêve de choses vraiment horribles. C'est pas genre je vais pieds nus dans la rue, ou voilà, où je retourne à l'école. Non. C'est vraiment des choses qui sont assez pénibles, et je sais pas comment m'en sortir. Et donc cette overdose est un peu, voilà, ce que je vis chaque nuit. Donc moi je fais mes petites overdoses chaque nuit. Ça m'a permis aussi d'exorciser, voilà, toutes ces peurs qui ne viennent de je ne sais où, parce que ma vie est, somme toute, pas mal, hein, je veux dire, j'ai pas une vie horrible, mais j'ai ces choses en moi, voilà, qui parfois font peur à mes proches, mais je leur dis, voilà, je suis quelqu'un de très rationnel et de très pragmatique et je pars pas dans des délires ou quoi, mais il y a cette part en moi, je peux pas la nier, c'est bien que vous la connaissiez. Et c'est vrai que mes proches, quand ils ont lu le roman, étaient assez choqués. Les premiers lecteurs, mes parents, mon ami, ont été choqués de ce que je racontais. Je leur dis, mais c'est une part de moi, et c'était aussi bien d'écrire ce livre pour qu'ils sachent vraiment ce que j'ai à l'intérieur. Cette part existe.
C'était cathartique.
Oh, totalement.
Ça vous a...
Totalement.
Ça a
été un peu thérapeutique. Mais je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que quand j'avais la dernière phrase du roman en tête quand j'ai commencé. Et je savais exactement la structure que j'allais mettre sur pied, je savais comment mon roman allait finir, et je savais, voilà, le dernier paragraphe était quasiment écrit dans ma tête. Et je voulais y arriver à ce paragraphe, donc tout ça a été un chemin, et c'est vrai que mes proches m'ont dit après coup que j'avais été difficile à vivre, que j'avais été... que l'écriture avait été pénible pour moi, et je refuse toujours le mythe de l'auteur maudit qui se met dans des états pas possibles pour écrire. Je crois pas qu'on ait besoin de ça. Et puis, ben, a priori, j'ai été ce garçon pas facile à vivre, sombre. Enfin, ce roman m'a habité pendant les mois que j'ai passé à l'écrire, mais je ne m'en suis pas rendu compte, et je ne me suis pas mis dans cette posture. J'ai adopté cette posture sans m'en rendre compte, et c'est vrai que quand j'ai posé le point final, croyez-le ou non, mais c'est vrai, un poids s'est envolé. C'est-à-dire que c'était très étrange. C'était un soir, j'avais commencé l'écriture en hiver, je l'ai fini en été. Mes fenêtres étaient ouvertes sur l'avenue du Général Leclerc. Mon ami était endormi, et je suis allé la réveiller en lui disant « j'ai fini ». Et un poids s'est envolé, elle l'a vu. Et je me suis dit « ben oui, effectivement, il y a dû avoir... ça a dû être, voilà... ce roman a dû me faire du bien. Ça, oui, ça a été cathartique, ça c'est clair, mais je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas cherché. C'est arrivé.
Le jour se lève sur aujourd'hui. Et que je fais de cette nuit, toi seul sauras me raconter l'amnésie que j'ai traversée. Mon cœur s'agite dans le silence d'avoir sombré dans l'indolence momentanée et oubliée dans quelques grammes de volupté. Les mots sont faibles devant toi, les heures sont belles auprès de toi. Tu serres mes mains encore fermées autour de l'icône sacrifiée. Tu fermes les yeux pour ne plus voir ces minutes passées dans le noir. Tu souffles sur mon corps transi, du chaud et froid de cet oubli. Et j'ose à peine te regarder, et j'ose à peine me retrouver. Les mots sont faibles devant toi, les heures sont belles auprès de toi.
a un instant, c'était L'Amnésie, un titre de Joseph Danvers, extrait de son album Les Jours Sauvages. Je ne résiste pas au plaisir, puisque nous avons le temps, d'écouter un autre titre de Joseph Danvers. Nous allons entendre Kids. Je rappelle que l'entretien que vous avez pu entendre ce soir avec le musicien et chanteur a été réalisé à l'issue du Salon du Livre des auteurs nivernais. Quant au roman de Joseph Danvers, je rappelle à nouveau qu'il s'agit de son premier roman, un roman noir qui a pour titre « La nuit ne viendra jamais », paru aux éditions Latengo. C'était Kids, à l'instant sur Radion, Kids interprété par Joseph Danvers à la voix, à la guitare et au clavier. C'est un titre extrait de l'album Les Jours Sauvages, donc de Joseph Danvers. Alors en attendant le troisième album qui devrait sortir avec le printemps, je vous encourage bien évidemment à découvrir le premier roman de notre invité, La Nuit ne viendra jamais, paru aux éditions Latengo, donc c'est signé Joseph Danvers. Avant de vous annoncer le programme de la semaine prochaine, quelques informations et manifestations autour du livre. Tout d'abord, demain à 18h30 à Auxerre, à la bibliothèque d'Auxerre, un rendez-vous de lecture est proposé par l'Association des Amis de la Bibliothèque d'Auxerre pour rencontrer d'autres lecteurs, pour échanger vos coups de cœur, des conseils de lecture et découvrir l'actualité littéraire. Cela se déroule à la bibliothèque Jacques Lacarrière, au service du prêt adulte, et l'entrée est libre. Ensuite, je voudrais mentionner une séance de dédicace qui se tiendra le samedi 19 février prochain à la librairie La Pieuvre, 53 rue du Pont, une dédicace avec Michel Lourenço, qui vient signer deux de ses albums, d'abord Flottille 66 et Escadrille Normandie-Niemen, donc c'est de 11h à midi et de 14h à 17h30 à la librairie La Pieuvre, à Auxerre, donc samedi 19 février prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 23 février à 21h. Nous serons en compagnie du président de l'association des Amis de Vézelay, Pierre Maurice, qui sera accompagné de Madame Barbosa et de Philippe Auverny pour évoquer le reportage photographique de Erling Mandelmann, ceux de Vézelay. Ce photographe a effectivement pris en photo les habitants de Vézelay, les habitants de tous âges et de toutes conditions. Il les a pris en photo sur la colline éternelle et en a fait donc un livre de photographie avec des textes, une préface de Edith de la Héronnière et un avant-propos de Madeleine Bochard, présidente des Amis de Vézelay de 2005 à 2009. C'est donc mercredi prochain à partir de 21h sur Radion. Pour ma part, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes musicaux de Radion. À très bientôt dans Wagon Livre. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Encore merci. Au revoir. Thank you.